ce soir encore du blues, en cette occasion plutôt canal historique, si j'ose dire, il y aura quelques voix exceptionnelles comme celle-ci, injustement oubliée avec le temps. Live Wire, c'était la voix d'une revenante qui chantait en duo avec une légende de la musique soul. Vous l'avez entendu rire à la fin, Mavis Staples, qui à 80 ans n'a sans doute jamais été aussi active. Alors, quelle revenante? Eh bien, si j'évoque le nom de Sheryl Crow, je doute que les moins de 40 ans lèvent un sourcil. Quant aux autres, eh bien, il est possible qu'il ou elle associe son nom à un gilet sans manches en jean délavé du début des années années 90 qu'ils ont oublié au fond d'une malle. Oui, c'est un peu le problème de Sheryl Crow, comme le rappelait cruellement un article récent du quotidien britannique The Guardian. Elle n'a jamais été cool. C'est vrai, quand on débarquait vers 1993-1994 aux États-Unis, les Beck, Smashing Pumpkins, Morphine, les Lemonheads, alors j'en oublie plein évidemment, eh bien Sheryl Crow c'était une chanteuse et guitariste certes jeune, mais qui faisait de la musique pour les vieux, enfin aussi pour les jeunes aimant les styles de vieux, il y en avait, il y en aura toujours. Sa chanson la plus connue de son premier album, paru en 93, elle avait déjà 31 ans, All I Wanna Do, avait un côté country blues, un peu jazzy, à la manière de Ricky Lee Jones, et ça sonnait alors déjà très rétro, et ramenait au moins 20 ans en arrière. Oui, en ce milieu des années 90, où Nirvana publiait In Utero, Beck, l'album Mellow Gold, et Radiohead, The Bends, eh bien, Sheryl Crow semblait la résurgence anachronique d'une autre époque. Enfin, en tout cas, quand on courait après le rock alternatif, un terme qui avait encore un sens en ce temps-là. Bref, dans le meilleur des cas, on trouvait Sheryl Crow sympa, et ça s'arrêtait là. Sauf qu'elle a trouvé alors du soutien chez les pères fondateurs du blues rock. Les Stones, qui l'ont fait chanter en première partie, Bob Dylan, qui l'appréciait beaucoup. Elle a d'ailleurs très bien repris une chanson de lui, Mississippi, et puis aussi Eric Clapton, dont elle a d'ailleurs été brièvement la fiancée. C'était bizarre pour moi, tout ça, raconte aujourd'hui Sheryl Crow, c'était comme sortir avec les copains de mes parents. Alors Sheryl Crow publie aujourd'hui un nouvel album, Threads, hein, comme des fils qu'on entrecroise, bon ça peut aussi vouloir dire fringue, un peu en argot, hein, surtout aux États-Unis. C'est un album qu'elle a enregistré chez elle, dans la grange équipée en studio, près de sa maison qui est située dans les environs de Nashville. Elle a enregistré à son rythme, invitant, comme elle le dit, certains de ceux et celles qui lui ont donné l'étincelle et qu'elle tenait ainsi à honorer. Parmi ses invités, il y a Mavis Staples, vous l'avez entendu, il y a également Stevie Nicks de Fleetwood Mac, elles ont répondu présentes, puis il y a aussi Keith Richards et Neil Young. Il y a également, c'est intéressant à souligner, un duo inédit enregistré en 2003 avec Johnny Cash, Redemption Day. Alors dans le titre que je vous ai fait écouter, Live Wire, interprété en compagnie donc de Mavis Staples, on pouvait également entendre la guitare d'une des plus grandes connaisseuses du blues aux États-Unis, Bonnie Raitt. Alors, Sheryl Crow n'a pas eu une vie facile, hein, c'est ce qui donne d'ailleurs à sa voix ce poids que d'autres, aussi talentueuses qu'elle, n'ont peut-être pas. Elle s'ennuyait ferme quand elle était jeune dans son Midwest natal, où elle avait gagné plus d'argent en chantant une publicité pour une célèbre enseigne de restauration rapide qu'en 2 années passées à enseigner le piano à des enfants. Elle a donc tout plaqué à l'âge de 24 ans pour tenter sa chance à Los Angeles. Elle a vite trouvé des engagements comme choriste, pour Clapton notamment, avant de se retrouver sur la tournée Bad de Michael Jackson entre 87 et 89, où elle a vu de drôles de choses dont, comme tous ceux qui étaient alors présents, elle n'a strictement rien dit. Elle a été d'ailleurs elle-même sujette à de fortes pressions masculines, dans tous les sens du terme. Alors, qu'en dit-elle aujourd'hui ? Eh bien, je la cite, « Recevoir aujourd'hui des excuses insincères, eh bien, ça ne m'intéresse pas. » Sheryl Crow, qui a 57 ans aujourd'hui, a survécu à un cancer du sein, à une tumeur bénigne au cerveau, et elle a annoncé que cet album serait son dernier. Elle élève aujourd'hui 2 jeunes enfants qu'elle a adoptés. C'est pas qu'elle compte s'arrêter de faire de la musique, non, mais elle a simplement plus l'intention de participer au circuit commercial de la musique enregistrée. En revanche, chanter sur scène, eh bien, elle n'y renoncera jamais. Elle est en train de terminer, à l'heure où je vous parle, une grande tournée américaine qui culminera ce mois-ci au Mexique. Pour continuer, une chanteuse d'une autre génération qui s'appelle Eileen Jewell, Jewell comme un bijou, son prénom s'écrit E-I-L-E-N. À 40 ans, cette musicienne traditionnaliste qui a grandi à Boise, dans l'Idaho, faudrait dire boisé d'ailleurs, parce que ça vient du français, embrasse à peu près tous les styles traditionnels américains, country, jazz, blues, dans leur inflexion ancienne. Longtemps implantée à Boston, eh bien, elle a animé un groupe depuis une 15aine d'années où elle a embrigadé son mari, qui est batteur. Le nouvel album de Eileen Jewell s'appelle Gypsy et cette chanson a pour titre Crawl et c'est sur France Inter.
Sleeps the rough of the spirit, but you hear it.
Un orchestre d'une dizaine de musiciens multiraciales, d'ailleurs avec des choristes et des cuivres, un groove où l'énergie le dispute à la finesse, vous l'avez entendu, c'était le Tedeschi Trucks Band. Le titre Signs High Times figure dans le dernier album du groupe qui est paru cette année et qui s'appelle Signs tout court. Eh bien, ce groupe, j'ai eu au moins deux occasions de vous en parler cette année. Eh bien, voici une troisième, puisque j'ai eu la chance insigne d'assister au concert que ce groupe a donné le mois dernier à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire du festival de Woodstock. C'était dans un théâtre couvert, un théâtre qu'a fait bâtir, il y a de ça quoi, une vingtaine d'années, un millionnaire de la télévision par câble, un enfant du pays, au sommet du terrain en pente légendaire où a eu lieu cet événement historique dont j'ai eu l'occasion de vous raconter l'histoire abracadabrante sur France Inter tout cet été. Alors à ce sujet, je voulais vous remercier pour les témoignages très nombreux que vous avez eu la gentillesse de nous adresser. Vous nous avez dit à quel point vous aviez été heureux d'entendre le récit de cette histoire véridique qui, malgré le mythe qui l'entoure, reste grandement méconnue. Ça m'a fait, ça nous a fait très plaisir, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà, en tout cas, je reviens au Tedeschi Trucks Band, qui était donc là 50 ans plus tard, et dont on vient d'entendre la chanson Signs High Times. Alors, deux mots sur ce groupe. Il associe une chanteuse de Boston, à la famille d'origine italienne, Susan Tedeschi, au magnifique timbre blues et soul, excellente guitariste aussi, et son mari, le guitariste Derek Trucks, un musicien qui n'est pas seulement un virtuose de la fusion rock, jazz, funk et world aussi, mais, et c'est l'important, un musicien d'une rare finesse et d'une grande sensibilité. Le Tedeschi Trucks Band jouait en première partie du vétéran John Fogerty, un survivant de Creedence Clearwater Revival, dont le concert, d'ailleurs, a commencé par un film de sa prestation 50 ans auparavant. C'était émouvant, il y avait des gens plutôt âgés qui étaient là, assis sur leurs pliants comme pour une messe en plein air. Et juste avant, eh bien, le Tedeschi Trucks Band a donné un concert exceptionnel, étourdissant, qui a d'ailleurs commencé, comme il a fini, par une reprise du Soul Sacrifice de Santana, dont l'interprétation en transe reste un des moments magiques et culminants du festival de Woodstock en 1969. Alors, entre-temps, eh bien, ces deux versions de Soul Sacrifice, ça a été un feu d'artifice dont j'ai retenu un solo magnifique de Derek Trucks, dont les notes évoquaient le raga indien de Ravi Shankar. Alors, je vous l'avais annoncé, ce soir, c'est du blues. Voici tout de suite un nouveau venu, 20 ans seulement, au physique de force de la nature. C'est un protégé du vétéran Buddy Guy. Il s'appelle Christone Ingram, dit Kingfish, c'est-à-dire, on pourrait dire le caïd. Il vient de Clarksdale, dans le Mississippi. Hein, c'est vraiment le cœur du blues à sa racine, quoi. C'est du blues électrique classique, conventionnel, oui, mais magnifiquement joué et interprété. Ce qui fait la différence, vous allez l'entendre, c'est son jeu de guitare, comme perlé, son attaque des notes d'une intensité et d'une sensibilité au-dessus de la moyenne. Christone, Kingfish, Ingram dans Outside of This Town, c'est sur France Inter ce soir. I'm leaving this town tomorrow. Places to go. I'm so tired of doing the same old thing. Shooting for the highest star. Want people to remember my name. If you don't understand, outside of this town, I have friends and family that I see every day. Don't plan no moving forward, stuck in the same old place. But that's not the road that I wanna go down. Outside of this town.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Don't your peaches, they look a melon. Out of sight, climb your tree.
Un tout nouveau titre signé par un groupe qui, lui, n'est pas si nouveau que ça, puisqu'il a déjà plus de 20 ans d'existence. Peaches, ça figure dans le tout nouvel album que s'apprête à publier ce mois-ci, les North Mississippi All-Stars, et qui s'appelle Up and Rolling. La chanteuse qu'on vient d'entendre s'appelle Charis Norman. C'est une des nombreuses collaboratrices qui ont intégré au fil des années les deux frères qui ont fondé ce groupe, Luther et Cody Dickinson, donc le noyau des North Mississippi All-Stars. Luther Dickinson, une bonne quarantaine d'années aujourd'hui, est un des meilleurs guitaristes de blues actuel. Alors il faut savoir que le nord-ouest du Mississippi, c'est une région toute proche de la ville de Memphis, et donc une région qui a été et qui reste au cœur du rock'n'roll et bien sûr du blues, de la country et de la musique soul. Luther a joué avec les meilleurs musiciens du genre. Il faut rappeler que son père déjà, Jim Dickinson, fut un des grands réalisateur artistique des années 70 et 80, collaborateur de Bob Dylan notamment. Et quand à son fils Luther, eh bien il a accompagné dès son plus jeune âge Willie DeVille, avant de former à la fin du siècle dernier les North Mississippi All Stars. Et puis parallèlement, il s'est joint il y a une dizaine d'années au grand groupe de blues rock de Atlanta, les Black Crowes. Et puis c'est aussi Luther Dickinson, c'est aussi un collectionneur, pas seulement d'enregistrements, mais aussi d'histoires et de traditions qu'il a recueillies à la bouche d'obscurs pionniers du blues qui étaient encore vivants durant son adolescence dans les années 80 et 90, notamment l'obscur Othar Turner, mort en 2003. Othar avait travaillé toute sa vie dans une ferme du nord du Mississippi, où avait bien sûr grandi Luther Dickinson. C'était un des derniers représentants d'une tradition alors qu'il remontait à la nuit des temps et que ses ancêtres esclaves avaient apporté d'Afrique. Son premier instrument avait en effet été le fifre, un fifre qu'il s'était fabriqué lui-même au début des années 1920 au moyen d'une canne à sucre. Alors, encore au début des années 2000, Luther aimait écouter les histoires et les couplets que Othar Turner improvisait, assis sous le porche de sa maison, une bouteille de liqueur de maïs toujours à portée de main. Et je vous invite d'ailleurs à écouter la série d'albums solo que Luther Dickinson a enregistré, qui s'appelle Blues and Ballads, où il restitue, comme il les a apprises, ses chansons archaïques. Quant à Cody Dickinson, son frère, batteur et joueur de washboard, vous savez, cette planche à laver qu'on racle en rythme, mais c'est également un guitariste et un joueur de clavier au sein d'un groupe parallèle qu'il a fondé à Memphis qui s'appelle The Hill Country Review. Alors dans le nouvel album des North Mississippi All-Stars, qui s'appelle donc, comme je vous disais, Up and Rolling, on entend de prestigieux invités, Mavis Staples, encore elle, qui décidément est partout. Et il y a aussi un musicien qu'on entendra tout à l'heure, je vous raconterai un peu l'histoire de sa famille, c'est assez passionnant, Cedric Burnside. Alors une dernière chose, dans son livre de mémoire, drôlement intitulé « I'm just dead, I'm not gone »,« Je suis mort, mais je suis pas parti », et bien Jim Dickinson écrivait ceci « J'ai appris à mes fils à jouer chaque note comme si c'était la dernière, parce qu'un jour, ce sera vrai ». Eh bien, ça pourrait, vous y penserez peut-être quand vous irez voir par vous-même le concert que les North Mississippi All-Stars donneront. Ce sera le 21 octobre prochain à la Maroquinerie à Paris. Tout de suite, alors, un jeune homme de 85 ans, Bobby Rush. Alors, originaire de la Louisiane, copain de Buddy Guy, Bobby Rush s'est révélé comme Muddy Waters et plein d'autres à Chicago avant de retourner vivre dans le Sud. Ce vétéran a abordé différents styles un peu au gré des vents et il apparaît aux côtés de B.B. King, un documentaire du milieu des années 2000 signé Richard Pierce, qui fait partie d'une série de films documentaires passionnants consacrés à l'histoire du blues, supervisés par Martin Scorsese. Eh bien, Bobby Rush a attendu, imaginez ça, l'âge de 83 ans pour gagner enfin un Grammy Award. Ce titre que je vous propose, extrait du nouvel album de Bobby Rush, qui s'appelle Sitting on Top of the Blues, s'appelle Good Stuff. Et ce Good Stuff, ça lui a été inspiré, c'est son témoignage, par la vision de deux jeunes enseignantes qu'il a trouvées à son goût, alors qu'il accompagnait, son arrière-petit-fils à l'école. Bon, c'est pas très politiquement correct, c'est vrai, mais bon, il a 85 ans. D'ailleurs, il paraît qu'à cet âge-là, le niveau de testostérone se met à remonter. Je lis ça quelque part, je sais pas si c'est vrai.
Hot like red ever, sweet like cherry wine. Girl, you look so good, I wanna make you mine. And every time I see you in your skin tight bridges, my imagination run wild. Girl, I wanna do something with you. You got the good stuff. You know you got the good stuff. You got the good stuff, baby. You know you got the good stuff. You got the good stuff. Well, well, you know you got the good stuff. You got the good stuff. Uh-huh. You know you got the good stuff. I like the way you walk. Girl, I like the way you talk. You got that something, huh? Make a chicken squawk. I like the way you move. I like your sex appeal. Yeah, you got that something, huh? Make a pig squeal. You got the good stuff. No, you got the good stuff. You got the good stuff. Well, well, you know you got the good stuff. You got the good stuff, uh-huh, you know you got the good stuff. You got the good stuff, uh-huh, you know you got the good stuff. You love fine, have the thing. You love fine, fine thing, wanna make you mine. I like the way you dance, I like the way you move. I like the way you carry yourself, girl, huh? So cool. You got a sweet personality and a smile so bright. Yeah. You can make a man do wrong, girl, when he won't do right. You got the good stuff. Know you got the good stuff. You got the good stuff. Wow, wow, you know you got the good stuff. You got the good stuff. Uh-huh. Know you got the good stuff. You got the good stuff. Well, you know you got the good stuff. On the ground. Every time I see you dance, girl, you make my love don't come down. You got the good stuff. You got the good stuff. You know you're the good-looking woman. You know you're the good-looking woman. You know you look so good.
Yes, we did.
Je vous parlais tout à l'heure de Cedric Burnside, c'est l'un des invités des North Mississippi All-Stars dans l'album qu'ils viennent de publier Up and Rolling. Eh bien, on vient de l'entendre, Cedric Burnside, dans We Made It, une sorte de blues funk délibérément primitif qui n'est pas sans évoquer le trio Del Grace du Guadeloupéen Pascal Danay. Cedric Burnside a accompagné dès son plus jeune âge, en tant que batteur, son légendaire grand-père R.L. Burnside. Burnside, un musicien au parcours surprenant. Voilà, je vais pas résister au plaisir de vous raconter son histoire. Ralph Lee Burnside, hein, comme beaucoup de jeunes gens du Sud, avait quitté son Mississippi natal pour trouver une vie meilleure à Chicago dans les années 50. Jeune guitariste, il avait fréquenté les mêmes scènes que Lightning Hopkins et Muddy Waters, qui se trouvait d'ailleurs être un cousin à lui par alliance. Mais l'expérience de la ville, ses tentations, ses trafics, eh bien, ça avait été pour lui tragique. Deux de ses frères avaient péri assassinés. Alors traumatisé, R.L. Burnside était ensuite retourné à la campagne pour y reprendre son activité de métayer. Il est ensuite demeuré dans une relative obscurité, même si des amateurs éclairés de blues, français et néerlandais, ont alors contribué à le faire sortir de l'ombre en diffusant ses enregistrements dès le début des années 80. Mais tout a changé, oui, tout a changé pour Burnside en 1990, lorsqu'un grand historien et musicologue du blues, l'américain Robert Palmer, hein, rien à voir avec le chanteur anglais homonyme, a consacré un documentaire à des musiciens méconnus de la région de Memphis où celui-ci, Palmer, vivait alors. Parmi ces musiciens, il y avait donc lui, R.L. Burnside, et son compère, le guitariste Junior Kimbrough. Et par le plus grand des hasards, quelques années plus tard, un musicien new-yorkais d'une toute autre génération, d'une vingtaine d'années, John Spencer, tombe sur ce film. Et ce jeune homme a une vision alors quelque peu fantasmagorique du blues et de ses interprètes, la malédiction qui plane sur les musiciens, leur sauvagerie bestiale et indomptable, la possession démoniaque qui s'empare de leur corps et de leur âme. Tout ça, le jeune John Spencer, fasciné, cherche à l'évoquer sur scène de façon théâtrale, mais chez R.L. Burnside, il voit tout ça pour la première fois vraiment pour de vrai, et c'est une révélation qui le captive. Il parvient alors à rencontrer le vétéran et à le persuader de partir en tournée avec son groupe, le John Spencer Blues Explosion. Il faut rappeler que R.L. Burnside, à cette époque-là, 70 ans. Donc le vieux accepte. Ils enregistrent un album ensemble qui s'appelle A.S. Pocket of Whiskey, qui fait découvrir R.L. Burnside au jeune public du rock alternatif qui a des raisons d'être absolument sous le charme. Voilà. Je vous ai raconté l'histoire du grand-père Burnside. Alors aujourd'hui, il y a toute une dynastie qui fait vivre son héritage, dont son petit-fils, Cedric Burnside, qui fait des étincelles dans le style âpre et rêche hérité du grand-père, hein, comme en témoigne l'album publié en 2018, intitulé Benton County Relic. Cette histoire, j'avais trop envie de vous la raconter. Elle plairait sûrement au cofondateur du groupe The Band, Robbie Robertson of The Band, un groupe qui, à lui tout seul, fut un conservatoire des traditions musicales américaines à contre-courant, en pleine période post-hippie. Mais enfin, je pense que Robbie Robertson connaît sûrement déjà par cœur cette histoire. Robertson, depuis une quarantaine d'années, joue un important rôle de conseiller musical auprès du cinéaste Martin Scorsese, vraiment qui est son intime. Et comme le dit drôlement Robertson, si Scorsese est un musicien frustré, eh bien lui, Robertson, est inversement un cinéaste frustré. D'ailleurs, son nouvel album s'appelle Cinematic. Il écrit ça avec un S, je ne sais pas pourquoi. Pour ce titre, I Hear You Paint Houses, eh bien, Robbie Robertson a convoqué son vieux camarade, le grand chanteur irlandais de folk, soul et jazz, Van Morrison. Against the mob, and now the curtain's
Mishka Assayas.
Pour se quitter, la voix très belle du nord-irlandais Foy Vance. Il a une voix très prenante. On peut penser à Van Morrison, qu'on a entendu tout à l'heure dans ce style très irlandais, bien sûr, entre folk et soul. Un de ses admirateurs, d'ailleurs, est Elton John, qui lui a demandé, il n'y a pas si longtemps, d'assurer la première partie d'une tournée américaine. Ce titre de Foy Vance s'appelle Cradled in Arms. Il était enregistré au célèbre Sun Studios de Memphis. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre, cette chanson est très ancrée dans le style des débuts d'Elton John, lui-même inspiré par l'exemple de The Band. Et puis tout ça reste infiniment vivant, plus de 50 ans après, Foy Vance.
Sometimes I remember that it is November and I once was cradled in arms, given a Bible for all of its cheek it had charm. There on the spine, my name was inscribed like my pain gets inscribed in your heart. But hold it together, I've never felt better. We found the world so far, so try not to worry.
Et voilà, c'est avec la voix chaleureuse du Nord-Irlandais Fó Evans que nous nous quittons pour ce soir. Il me reste à remercier Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, Guillaume Roux à la technique, Stéphanie Leroy à la discothèque de Radio France et Zora Ben Smiley pour le site internet. Tout de suite après les informations, vous retrouverez Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous. Je vous dis à demain.